Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 1, scène 26. La princesse Marie reçut dans le courant de l'été une lettre de son frère, datée de Suisse. André lui faisait part de la nouvelle imprévue et surprenante de son engagement avec la jeune comtesse Rostov. Cette lettre respirait l'amour le plus exalté et témoignait de la confiance la plus affectueuse et la plus tendre envers Natacha. Il lui avouait n'avoir jamais aimé comme il aimait à présent, n'avoir jamais compris la vie jusque-là, et terminait en lui demandant pardon de lui avoir fait un mystère de ses intentions lors de son séjour à Lysigorie, bien qu'il en eût parlé à son père. Mais il avait craint, disait-il, de l'avoir usé trop tôt de son influence sur ce dernier pour en obtenir son consentement, car dans ce cas, l'irritation causée par ses tentatives infructueuses serait inévitablement retombée de tout son poids sur elle seule.
La chose à cette époque,
écrivait-il,
n'était pas encore aussi mûrement décidée que maintenant, car mon père m'avait fixé le terme d'un an. 6 mois se sont écoulés et ma décision reste inébranlable. Si les médecins et leurs traitements ne me retenaient aux os, je serais revenu auprès de vous, mais mon retour est remis à 3 mois. Tu connais les rapports qui existent entre mon père et moi. Je ne lui demande rien. J'ai été et serai toujours indépendant. Mais agir contrairement à sa volonté, mériter par là sa colère lorsqu'il lui reste peut-être si peu de temps à vivre, m'enlèverait la moitié de mon bonheur. Je lui écris de nouveau. Choisis donc, je t'en supplie, l'instant favorable. Remets-lui ma lettre et informe-moi comment il l'aura acceptée, ce qu'il en pense, et s'il y a quelque espoir de lui voir avancer le terme de 3 mois.
Après bien des hésitations et bien des prières au bon Dieu, la princesse Marie fit ce qu'il lui demandait.
Écris à ton frère,
lui répondit son père, après avoir pris connaissance de la lettre et sans se fâcher.
Qu'il patiente jusqu'à ma mort. Ce ne sera pas long et cela lui déliera les mains.
La princesse Marie essaya une timide objection. Mais il l'interrompit en haussant la voix.
Marie-toi, marie-toi, mon cher. Belle parenté, ma foi. Sont-ils des gens d'esprit, hein? Riches, hein? Une jolie belle-mère à donner à Nikolushka. Écris-lui de l'épouser demain s'il en a tellement envie. Et moi, j'épouserai la bourrienne. Alors, il en aura une aussi de belle-mère. Seulement, comme j'ai assez de femmes dans la maison, il me fera plaisir d'aller vivre ailleurs. Tu déménageras chez lui, à la grâce de Dieu, par l'âgelée.
Il ne fut plus jamais question de ce sujet après cette violente sortie, mais le dépit causé par la faiblesse de son fils se trahissait à tout moment dans les relations du père avec sa fille. Un nouveau thème d'inépuisables plaisanteries s'était ajouté aux anciens, le thème de la belle-mère et de son penchant personnel pour la jeune Française.
« Pourquoi ne l'épouserai-je pas ? »
disait-il souvent.
Elle fera une charmante princesse. »
Et Marie s'aperçut enfin avec stupeur que les attentions de son père envers Mademoiselle Bourienne avaient pris un nouveau caractère et qu'il trouvait du plaisir à passer de longues heures auprès d'elle. Elle rendit compte à son frère du triste résultat de sa démarche, en lui faisant toutefois espérer qu'elle réussirait à obtenir le consentement du vieux prince. Le petit Nicolas, André et la religion étaient les seules joies, les seules consolations de la princesse Marie. Mais ayant, comme chacun ici-bas, besoin d'aspirations toutes personnelles, elle caressait dans le fin fond de son cœur un rêve, une espérance mystérieuse qui la soutenait dans la vie et que les pèlerins qu'elle recevait à l'insu de son père avaient contribué à développer en elle. Plus elle vivait, plus elle étudiait la vie, et plus elle s'étonnait de l'aveuglement de ceux qui cherchent sur la terre la satisfaction de leurs désirs, de ceux qui souffrent, qui travaillent, qui luttent, qui se font mutuellement du mal à la poursuite de ce mirage insaisissable imaginaire et plein de tentations coupables qu'on appelle le bonheur. Ne voyait-elle pas son frère, qui avait aimé sa femme, essayer de l'atteindre en aimant une autre femme? Et son père s'opposer avec colère à ce choix qui lui paraissait trop modeste? Tous souffraient les uns par les autres, et ils perdaient leur âme immortelle pour obtenir des jouissances qui passent comme un éclair. Non seulement nous le savons que trop par nous-mêmes, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu descendu sur la terre, nous a démontré que la vie n'est qu'un passage, une épreuve. Et cependant, nous nous y acharnons après le bonheur. Personne n'a donc compris cette vérité, se disait la princesse Marie. Personne, excepté ces pauvres créatures du bon Dieu qui, la besace sur le dos, viennent à moi par l'escalier dérobé pour éviter mon père, non par crainte des mauvais traitements, mais afin de ne pas l'induire en tentation. Abandonner famille et patrie, renoncer aux biens de ce monde, ne s'attacher à rien ni à personne, errer de lieu en lieu sous un nom d'emprunt, vêtu de la bure du pèlerin, ne point faire de mal, mais prier, prier toujours pour ceux qui persécutent comme pour ceux qui protègent. Voilà le vrai, voilà la vie dans sa plus haute acception. Parmi les femmes vouées à cette existence errante, il y en avait une qui inspirait à la princesse Marie un intérêt tout particulier. C'était une certaine Fedosiushka. Petite, grêle, âgée de 50 ans environ, et qui depuis 30 ans marchait toujours pieds nus et portait un cilice. Un soir que, à la faible lueur de la lampe des images, elle écoutait le récit des pérégrinations de sa protégée, la pensée que celle-ci avait seule trouvé la véritable voie s'empara si violemment de la princesse Marie qu'elle résolut au fond de son cœur de suivre son exemple. Longtemps après le départ de Fedosiushka, elle resta plongée dans ses réflexions et décida, malgré l'étrangeté de cette résolution, qu'elle devait elle aussi vivre cette vie. Confiant ce désir à son confesseur, le moine Hyacinthe, elle obtint son approbation et, prétextant un cadeau à faire à l'une de ses voyageuses, elle s'offrit à elle-même le costume complet. La chemise de bure, les chaussures nattées, le caftan et le grand mouchoir de laine noire. Arrêtée devant la bienheureuse armoire qui contenait ses effets, elle se demandait souvent, avec hésitation, si le moment n'était pas venu de mettre son projet à exécution. Que de fois avait-elle tenté de tout abandonner et de s'enfuir avec ses femmes, dont les récits naïfs, répétés machinalement et à satiété, avaient le don d'exciter son enthousiasme en lui laissant entrevoir un sens profond et mystérieux. Elle se voyait déjà cheminant avec Fedosiushka sur une route poudreuse, le bâton à la main, vêtues toutes deux de grossiers haillons, portant un petit sac sur les épaules, et traînant leur vie errante, de pèlerinage en pèlerinage, détachés de tout, ne ressentant ni envie, ni amour humain, ni désir. Je m'arrêterai, pensait-elle, je prierai, et puis, sans me permettre de m'attacher à un endroit, d'y aimer, j'irai plus loin. J'irai ainsi jusqu'à ce que mes pieds se refusent à me porter. Alors, je me coucherai pour mourir n'importe où, où je trouverai enfin ce refuge de paix, où il n'y a ni douleur, ni regret, où règne la joie et la béatitude éternelle. Mais, à la vue de son père et de l'enfant, ses résolutions faiblissaient, et, versant en secret des larmes amères, elle s'accusait d'être une grande pécheresse, et de les aimer tous deux plus que Dieu.